VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 5 septembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Jean-Roger Bion. Tout d'abord les titres.
Au Gabon, le Premier ministre ordonne aux travailleurs de reprendre le travail ce lundi après les violences consécutives à la réélection du président Ali Bongo Ondimba.
Au Mali, limogeage du ministre de la Défense, Tiémane Hubert Koulibaly, suite à un raid d'un groupe de djihadistes présumés sur la ville de Boni.
Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir accepte finalement l'envoi de casques bleus supplémentaires dans son pays.
Les États-Unis et la Russie n'ont pas réussi aujourd'hui à Hangzhou, en Chine, à s'entendre sur un accord de cessez-le-feu en Syrie.
Ankara dit avoir chassé les djihadistes du groupe État islamique des dernières positions qu'il tenait le long de la frontière turque.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Gabon, proche sans nouvelles d'un parent, Internet toujours suspendu, télévision indépendante mise hors d'usage, le Premier ministre a donné l'ordre aux travailleurs du public comme du privé de reprendre le travail ce lundi. Le Gabon vivait hier en manque d'informations depuis les violences qui ont suivi la proclamation mercredi de la réélection du président Ali Bongo. Au total, selon un décompte de l'AFP, ces violences ont fait 7 morts dans tout le Gabon, dont 5 civils à Libreville, un civil à Port-Gentil, la capitale économique et un policier à Oyem dans le Nord. Nous y reviendrons plus en détail dans la seconde partie de cette édition avec notre correspondant à Libreville.
Au Mali, limogeage du ministre de la Défense et des anciens combattants, Tiémane Hubert Koulibaly. Il a été remplacé par Abdoulaye Idrissa Maïga, précédemment ministre de l'administration territoriale de Bamako. Précision de notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Le limogeage du ministre de la Défense et des anciens combattants peut avoir plusieurs raisons. Mais la plus récente n'est autre que la prise de la localité de Boni dans la région de Mopti par les assaillants. Avant Boni, il y a eu l'attaque de Nampala, les scandales de détournement des primes des militaires par la hiérarchie, les malaises chez les troupes, tout cela sans oublier le fait que le ministre de la Défense n'a pas pu avoir une carte sécuritaire du Mali et de définir une stratégie militaire de défense cohérente face aux enjeux. Toutes ces insuffisances ont fini par avoir raison du ministre de la Défense qui a été renvoyé du gouvernement le samedi dernier. C'est dire aussi que la tâche ne sera pas facile pour son successeur, Ablaye Idrissa Maïga, qui n'aura plus droit à l'erreur. Jusque-là, Tiémane Koulibaly avait résisté à tous les remaniements ministériels. Cela de la transition de 2012 à nos jours. A rappelé tout simplement que les militaires maliens et gendarmes sont de retour dans la localité de Boni qui avait été occupée par les assaillants. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Cap-Vert, le Parti libéral Mouvement pour la démocratie, MPD, au pouvoir, semblait se diriger hier vers une nette victoire lors des élections municipales. Il s'agit là d'un scrutin à valeur d'indicateur à un mois de la présidentielle du 2 octobre. Les sondages indiquent que le MPD, arrivé au pouvoir après les législatives du 20 mars, en battant le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, semblait bien parti pour remporter au moins 15 des 22 conseils municipaux contre 6 pour le PAICV.
Crise sud-soudanaise, l'intense pression internationale a fini par avoir raison de la réticence du président Salva Kiir qui a accepté l'envoi de casques bleus supplémentaires dans son pays. Précision de Timothée Donangmaï.
Le chef de l'État sud-soudanais et une délégation du Conseil de sécurité en visite à Djouba ont publié dimanche un communiqué conjoint dans ce sens. 4000 casques bleus fournis par divers pays africains seront chargés de sécuriser la capitale sud-soudanaise et de protéger les civils. Ils auront un mandat plus robuste que celui des 12 000 soldats de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, la MINUS, qui ont été critiqués pour n'avoir pas été capables de protéger la population lors des violents affrontements de juillet entre la garde rapprochée de l'ex-vice-président sud-soudanais Riek Machar et les troupes loyales au président Salva Kiir. Pour l'heure, le calendrier du déploiement des nouvelles troupes internationales n'est pas connu. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a visité samedi un camp de déplacés dans la capitale sud-soudanaise. C'était l'occasion de voir les conséquences humaines de l'échec des leaders politiques à rétablir la paix dans leur pays, a déclaré l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Samantha Power.
Embarcation. Deux embarcations transportant respectivement 15 Algériens mineurs et 29 migrants d'Afrique subsaharienne ont été secourus hier au large de l'Espagne. C'est ce qu'a appris l'AFP auprès des gardes-côtes. Par ailleurs, plus de 100 migrants, dont l'origine n'a pas été précisée, ont traversé la frontière terrestre entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla, selon la préfecture locale.
Cette traversée massive et coordonnée s'est faite en quatre points différents de la clôture dans l'après-midi, selon ce porte-parole. Une triple barrière haute de plus de 6 mètres entoure cette ville autonome espagnole qui est, avec l'autre enclave espagnole Ceuta, l'une des deux seules frontières terrestres entre l'Union européenne et l'Afrique.
Et sur les 6 premiers mois de l'année, 4606 migrants originaires d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient sont arrivés en Espagne par voie terrestre ou maritime, selon l'Organisation internationale pour les migrations.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président chinois Xi Jinping va rencontrer le premier ministre japonais Shinzo Abe ce lundi en marge du G20 pour la première fois depuis plus d'un an. Les relations entre Tokyo et Pékin restent envenimées par des différends territoriaux et contentieux historiques. Au-delà des contentieux persistants relatifs à la Seconde Guerre mondiale et l'occupation nippone de la Chine, les différends territoriaux entre les deux pays en mer de Chine orientale restent extrêmement vifs.
Les États-Unis et la Russie ont échoué aujourd'hui dans leur tentative de trouver un accord sur la Syrie au cours de négociations en marge du G20 à Hangzhou en Chine, et ce en raison de divergences persistantes, a indiqué un diplomate américain. De nouveau pour parler ce lundi entre le secrétaire d'État américain John Kerry et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov se sont achevés sans parvenir à un accord, selon ce diplomate.
En Syrie même, le groupe djihadiste État islamique a été chassé des dernières position qu'il tenait le long de la frontière turque. Il s'agit d'un succès majeur pour Ankara, qui a lancé fin août une opération militaire dans le nord syrien visant à la fois le groupe État islamique et les milices liées au parti kurde syrien PYD. C'est ce qu'annonce Ankara. La perte de cette zone frontalière prive les djihadistes de points de passage pour les recrues et l'approvisionnement depuis la Turquie, même si l'organisation terroriste contrôle encore de larges pans de territoire en Syrie et en Irak.
Ici aux États-Unis, Hillary Clinton fait sa rentrée politique ce lundi, jour férié du Labor Day ou fête du travail, qui marque traditionnellement le lancement de la dernière ligne droite de la campagne présidentielle américaine. La candidate démocrate à la Maison-Blanche se rendra tout au long des deux prochains mois jusqu'au scrutin du 8 novembre dans des États considérés comme cruciaux pour une victoire. Son adversaire républicain Donald Trump n'a pas, lui, fait profil bas au mois d'août. Nous y reviendrons avec Timothée Donangmaï dans la seconde partie de cette édition.
Un nombre record de Hongkongais ont voté jusqu'à tôt ce lundi lors d'une élection cruciale, marquée par la présence d'une nouvelle génération de militants prônant une rupture radicale avec Pékin dans la lignée des grandes manifestations pro-démocratie de 2014. Les élections au Conseil législatif, l'équivalent d'un Parlement, interviennent alors que de nombreux habitants ont le sentiment que Pékin veut renforcer son emprise sur la ville semi-autonome dans les domaines politiques, culturels ou encore éducatifs.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Éco, Michel Joseph.
La filiale camerounaise du groupe France Télécom est visée par une plainte déposée au Cameroun par la Fédération camerounaise des consommateurs auprès du régulateur local des télécommunications pour publicité mensongère sur l'offre de la 4G. Officiellement, au Cameroun, aucun opérateur ne dispose de fréquence 4G. L'Agence de régulation des télécommunications a assuré qu'elle allait adresser une demande d'explication à l'opérateur incriminé. Au Nigeria, Aero Contractors et First Nation Airlines ont décidé de suspendre leurs vols. Les deux compagnies aériennes ont pris cette décision stratégique qui devrait leur permettre de trouver des solutions pouvant leur permettre d'être plus rentables. Le Nigeria fait face à une récession du fait de la chute des cours du pétrole. Selon SBM Intelligence, plus de 4 millions de personnes ont perdu leur emploi depuis 2014. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis en août ont déçu les attentes. L'économie américaine a généré 150 000 nouvelles embauches, alors que les analystes tablaient sur 180 000 après les 275 000 du mois de juillet. Le taux de chômage demeure à 4,9%, au même niveau depuis trois mois.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour. La fin des éliminatoires de la CAN 2017 et on connaît désormais les 16 équipes qui vont s'affronter au Gabon.
Oui, c'est à l'issue de la dernière journée que ces 16 nations sont qualifiées pour la phase finale de cette CAN. Le Gabon, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, le tenant du titre, l'Algérie, l'Égypte, septuple champion d'Afrique, le Maroc, la Tunisie. Ce qui veut dire que le Maghreb sera au complet. Le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, la Guinée-Bissau qui sera à sa première participation à cette phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali, l'Ouganda, le Zimbabwe, la RD Congo, le Sénégal et le Togo.
Cette dernière journée a connu quelques suspens.
Le Burkina Faso a obtenu sa qualification à l'arraché grâce à la victoire de 2-1 devant le Botswana, tout comme la Tunisie qui a étrié le Libéria 4-1.
Élisée, on connaît désormais les deux meilleurs deuxièmes à l'issue de cette dernière journée.
Il s'agit du Togo qui a frappé fort en surclassant Djibouti 5-0 et qui profite du coup de la défaite du Bénin au Mali 5-2. Et puis l'Ouganda qui s'offre d'ailleurs l'une des deux meilleures deuxièmes places grâce à son succès 1-0 face au Comores. Un événement considérable pour les Crabes puisque leur dernière participation à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations remonte en 1978.
La meilleure performance de ces éliminatoires est à mettre à l'actif du Sénégal.
Les Lions de la Teranga sont les seules nations à avoir remporté tous leurs matchs. Précision à Dakar avec Amédicine.
Le Sénégal a bouclé les éliminatoires de la CAN 2017 prévue au Gabon en beauté en réalisant un grand chelem. En effet, les Lions de la Teranga qui ont dominé les Braves Warriors de la Namibie sur le score de 2-0 samedi au stade Léopold Sédar Senghor ont tout simplement réalisé un parcours sans faute, d'où la satisfaction du coach Aliou Cissé.
On est content, donc on le dédie vraiment à tout le peuple sénégalais, on le dédie à nos supporters, aux gens qui croient en nous, aux gens qui nous encouragent, aux gens qui aiment l'équipe nationale du Sénégal, donc on leur dédie cette qualification et on leur demande vraiment de continuer à prier pour nous.
Pour le milieu de terrain sénégalais Younous Sankaré, les Lions ont fait preuve de force de caractère face aux Braves Warriors qui n'ont pas été faciles à jouer du tout.
C'était un match compliqué face à un adversaire qui n'avait pas d'enjeu particulier et je pense qu'aujourd'hui on a montré une force de caractère et une force de rigueur qui montre que le Sénégal aujourd'hui est une équipe redoutable et on rentre dans l'histoire aussi parce qu'on fait 6 matchs, 6 victoires, donc c'est de bon augure.
Pour sa part, le ministre des Sports, Matarba, estime que le Sénégal vient de franchir une étape. Maintenant, il reste la phase finale de la CAN, mais aussi les éliminatoires du Mondial.
C'était une étape. Nous avons en tout cas franchi le premier obstacle. Maintenant, ce qui reste, c'est de se reconcentrer et de continuer le travail pour mieux aborder les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais en tout cas être prêt pour la CAN 2017.
Les Lions, qui ont réalisé un parcours exceptionnel dans ces éliminatoires, peuvent maintenant se concentrer sur les futures échéances, c'est-à-dire les éliminatoires du Mondial. Ahmed Insi, Dakar.
Le tirage au sort de la composition des groupes aura lieu le 19 octobre prochain à Libreville. Précisons que la phase finale de cette CAN 2017 va se dérouler au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017.
Direction l'Europe et on parle des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.
Belle entame de l'Angleterre qui est allée battre la Slovaquie 1-0 grâce à Adam Lallana qui inscrit au passage son premier but en sélection. L'Allemagne non sans peine est venue à bout de la Norvège 3-0. Notons le match 0-0 de la République tchèque face à l'Irlande du Nord. La France joue ce soir face au Bélarus. En Amérique latine, le Brésil a pris le meilleur sur l'Équateur 3-0 et l'Argentine est venue à bout de l'Uruguay 1-0 grâce à Lionel Messi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, le Premier ministre a donné l'ordre aux travailleurs du public comme du privé de reprendre le travail ce lundi. Le pays a été le théâtre de violences depuis l'annonce de la victoire du président Ali Bongo à l'élection du 27 août. Un calme précaire est revenu à Libreville. Timothée Donangmaï a fait le point hier soir avec notre correspondant à Libreville, Jean-Rovis Dabani.
La capitale gabonaise a retrouvé son calme. Et plusieurs commerces, du moins ceux qui en restent, ont rouvert ce week-end. La société de nettoyage continue de dégager les rues des vieux pneus brûlés par les opposants qui ont violemment manifesté leur colère à l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. Et même si elle pense encore se plaire, Port-Gentil, la ville rebelle par nature, a connu un week-end paisible après des manifestations qui ont suivi l'annonce des résultats de la présidentielle. Et le fief de l'opposant Jean-Ping, la capitale économique, souffre de la chute des coûts du pétrole qui a fait la fortune de la ville d'aujourd'hui son malheur. Comme en 2009, l'annonce de la réélection d'Ali Bongo a provoqué des violences dans la capitale économique. Selon les autorités, une personne a trouvé la mort après qu'une prison a été attaquée par des manifestants. La ville d'Oyem, dans le nord du pays, a connu elle aussi des tensions. La communauté Aoussa a été attaquée par des opposants qui les accusent d'avoir soutenu Ali Bongo.
Dimanche, Internet était toujours coupé au Gabon. Quelle est la situation en ce qui concerne les médias?
Tout le week-end, Internet et SMS étaient toujours bloqués. Les appels au rassemblement des opposants se faisaient via les réseaux sociaux ou les chaînes de télévision privées appartenant à des opposants, mais elles ont été détruites par les forces de l'ordre.
On parle aussi d'un millier de personnes interpellées à Libreville et dans le reste du pays. Quelle est la situation de ces personnes?
Oui, évidemment, Timothée, près de 1500 personnes ont été arrêtées et selon le commandant-chef de la police nationale, il s'agit des pillards et des casseurs. C'est ce qui inquiète les avocats et les membres de la société civile.
Qu'en est-il des opposants?
La situation des opposants reste floue puisque les 26 personnes retenues dans le QG de l'opposant Jean-Ping à Libreville ont été libérées après des négociations menées par le diplomate tunisien Abdoulaye Batili, qui est le patron du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Et on se souvient, Timothée, que dans son discours, le premier du genre depuis la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, Jean-Ping a appelé ses partisans au calme, réclamant à nouveau le recomptage de voix bureau par bureau, ce que ne prévoit pas la loi. Et samedi soir, le Premier ministre a appelé les travailleurs à regagner leur bureau lundi matin. Mais à Libreville, le dispositif policier a été allégé dans les quartiers qui ont connu des violences, à l'exception du palais présidentiel, dont les accès sont restés bloqués par des blindés de la garde républicaine.
Jean-Rovis Dabani, notre correspondant à Libreville. Maintenant, que pensent les Gabonais de la victoire d'Ali Bongo et des violences qui ont suivi? Idriss Fall, notre envoyé spécial, a tendu son micro à des citoyens qui, pour des raisons évidentes, ont voulu garder l'anonymat.
La victoire a été volée parce que le peuple gabonais en a marre. Et nous sommes fatigués de la famille Bongo. 50 ans au pouvoir, c'est trop. Le Gabon pourri, le Gabon coupé dans la pauvreté. Ali ne fait que s'enrichir avec ses amis. Nous ne voulons plus de ça.
Une grossière erreur de l'opposition et une grossière mascarade du pouvoir en place. Et après, on sait qu'il n'y aura pas de recomptage. On est parti pour 7 ans de souffrance encore. Moi, j'ai le sentiment que ça va faire mal. Ça va vraiment faire mal parce qu'on est en face des gens qui sont rancuniers, des gens qui sont méprisants, des gens qui sont orgueilleux.
Il y a eu révolte tout simplement parce que les gens se sont rendus compte que la victoire du président Ping a été volée. Mais comme ça se passe en Afrique, tout ce que nous pouvons demander, c'est d'arrêter de tuer le peuple. Parce que c'est ce peuple-là qu'il va commander demain. Donc il ne faut pas qu'on puisse tuer ce même peuple et se retrouver pour qu'il y ait la paix. Nous voulons la paix.
Si les urnes ont parlé, les urnes ont décidé que c'est Ali Bongo qui a gagné, car cela nous tienne, même si évidemment on a parlé de fraude. Et le verdict est tombé, alors nous ne pensons plus aux élections. Nous devons passer à demain, que nous devons reprendre le boulot et que la vie continue. Malheureusement, cette élection devait être une élection démocratique qui devait faire valoir notre pays, mettre en rang serré pour que demain ça soit un jour meilleur. Mon jour d'aujourd'hui, tout est froid. Ça voudrait tout simplement que le pays ça, je n'ai pas propice pour demain.
C'est une victoire qui a été volée. Il y a trop de zones d'ombre au sein du code électoral. Les publications ont tardé. J'ajoute que les violences ne sont pas l'apanage du peuple gabonais. Comme le disait le pape Jean-Paul II, là où il y a l'homme, il y a l'homérie. Partout à travers le monde, dès qu'un homme atteint un niveau de colère élevé, il le manifeste violemment. Donc, au niveau des violences, c'est tout à fait normal. Mais c'est le Gabon qui est comme ça, qui est bizarre. Il y a lieu de revoir les institutions qui, en définitive, ne servent pas la République, mais servent un homme, un pouvoir, une famille qui depuis 50 ans gère le pays, et cela commence à déranger, d'où la colère des uns et des autres.
La victoire d'Ali Bongo, on sait que ça a été fraudé et c'est pas sérieux. Il devait céder parce que les gens sont fatigués. La même famille sont au pouvoir depuis 50 ans. C'est pas normal. Les gens ont manifesté leur colère, ils ont tout cassé, mais c'était pas ça la solution.
Tout à fait, on est vraiment stupéfait et très sensible à la victoire d'Ali. En tout cas, quand on sait pas ce qui s'est passé, on sait que la victoire, ça a été donnée par la Sénat, c'est la voix du peuple. Et la voix du peuple, c'est ce qu'on doit respecter, c'est tout. Mais en tout cas, nous, on est dans le quartier, mais nous ne sommes pas inquiets. Ça va, ça marche.
C'était des réactions recueillies à Libreville par Idriss Fall.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, la rentrée scolaire ne s'annonce pas de tout repos. En effet, des milliers d'étudiants et leurs enseignants reviennent de vacances pour avoir la mauvaise surprise de voir que leurs écoles ont été mises sous scellés. Le gouvernement affirme que plus de 300 établissements ont été fermés parce qu'ils opéraient sans autorisation. Les autorités de Yaoundé précisent que la qualité de l'enseignement dispensé par ces écoles n'est pas d'un bon niveau. Jacques Aristide.
À l'aide d'un haut-parleur, cette enseignante du collège Adjal, situé dans la capitale camerounaise, demande à des centaines de parents, tuteurs et d'enfants réunis à l'extérieur de cette école secondaire de rentrer chez eux. Mais les protestataires sont catégoriques, ils videront les lieux une fois qu'ils auront eu la garantie que l'établissement ouvrira ses portes. C'est l'une des 76 écoles secondaires et 245 écoles primaires qui ont été fermées au Cameroun pour avoir opéré illégalement ou dans de mauvaises conditions. Gloria Yancy est l'un des parents mécontents. Elle confie avoir déjà payé les frais de scolarité pour ses deux enfants.
L'État ne devrait pas attendre la rentrée scolaire avant de fermer les établissements. Il devait fermer les établissements au moins pendant les vacances. Parce qu'à ce niveau, maintenant, ce sont les parents qui sont dans des difficultés parce qu'ils ont déjà versé les frais d'inscription qui ne leur seront pas remis. La frustration, c'est une période de frustration.
Un autre parent, Nebagwa Valentine, indique que sa fille est allée se faire inscrire avant que ne débute l'année scolaire le 5 septembre. Mais mauvaise nouvelle, le gouvernement a ordonné la fermeture de l'école qu'elle avait choisie.
Learning can never take place in a very nasty environment.
L'apprentissage ne peut pas se faire dans un mauvais environnement. Ces mêmes écoles sont dépourvues de toilettes et d'eau courante. Vous apprenez parfois que certains de leurs propriétaires sont des mécaniciens dont le niveau d'éducation ne s'arrête qu'au certificat d'études primaires. C'est inacceptable. J'ai même vu une résidence privée privé servant d'école. Il n'y a pas de terrain de football. Il n'y a pas de verger non plus.
Certaines écoles missionnaires, qui sont généralement considérées comme faisant partie des meilleures au Cameroun, ont également été mises sous scellé, d'après Agangwa Théophilus, conseillère au syndicat des enseignants de l'autorité d'éducation presbytérienne. Il accuse le gouvernement de non-respect des procédures régissant la création des établissements scolaires.
Il y a quelque chose de fondamentalement mauvais. Il faut soumettre des documents au ministère concerné en vue d'obtenir l'autorisation formelle pour la création et l'ouverture d'une école. Mais en vertu de la loi, 30 jours après avoir déposé ces documents, vous pouvez aller de l'avant avec votre projet, même s'il n'y a eu aucune réaction du gouvernement.
Le gouvernement camerounais appelle les propriétaires d'écoles à pourvoir leurs établissements des nécessités de base, comme l'eau courante, les toilettes et terrains de jeu. Ce qui fait dire à Leke Tambo, secrétaire général au ministère de l'enseignement secondaire, que certaines écoles pourront rouvrir leurs portes si ces conditions sont remplies. Le gouvernement, dit-il, a également demandé que les frais de scolarité soient remboursés aux parents. La fermeture d'écoles n'est pas un fait nouveau au Cameroun. En 2013, 750 établissements clandestins avaient été interdits d'opération. Toutefois, selon le syndicat des enseignants du Cameroun, ces écoles ont fait fi de l'interdiction et ont continué à opérer, une situation que le syndicat attribue à ce qu'il qualifie de responsable d'éducation corrompue.
Présidentielle américaine 2016, le républicain Donald Trump a visité au cours du week-end une église de Détroit où il a réitéré son appel en direction des électeurs noirs. Côté démocrate, les FBI, la police fédérale, a publié des documents relatifs à son enquête sur l'utilisation par Mme Hillary Clinton d'un serveur privé pour ses communications au département d'État. Le point, Timothée Donangmaï.
Face aux accusations selon lesquelles Donald Trump exhorte les Noirs à voter pour lui, alors qu'il s'adresse surtout à des foules composées en majorité de Blancs, Trump a assisté à un service religieux dans une église de Détroit, ville à 83% noire. C'est la première visite qu'il effectue dans une église africaine-américaine, a tenu à souligner l'évêque Wayne Jackson, qui a présenté le candidat républicain à ses ouailles. Pour sa part, Donald Trump a assuré les fidèles être venu les écouter et aussi présenter son plan économique qui, a-t-il dit, sera bon pour Détroit. « Notre pays est trop divisé », a-t-il déclaré. Donald Trump a félicité les églises noires d'être, selon lui, la conscience du pays. Il a affirmé que la nation a besoin d'un agenda des droits civils pour notre époque. Alors que le candidat républicain s'exprimait dans cette église de Détroit, des manifestants s'étaient mobilisés à l'extérieur pour dénoncer sa visite. Il représente la politique de la peur et de la haine, et les minorités en tout genre ont tout à perdre en misant sur une telle personne, a déclaré le pasteur Lawrence Glass, une des personnes critiquant Donald Trump.
De son côté, Timothée, le FBI a publié les documents relatifs à son enquête concernant les emails de la candidate démocrate Hillary Clinton du temps où elle était secrétaire d'État.
La police fédérale américaine a dit avoir pris cette décision à la suite de plusieurs requêtes introduites sous le Freedom of Information Act, la loi pour la liberté d'information qui fait obligation aux agences fédérales de fournir leurs documents à la demande. Les documents publiés par le FBI incluent une synthèse des propos de la candidate démocrate aux enquêteurs du FBI, de même qu'une description chronologique de la démarche de la police fédérale ayant abouti à la décision de ne pas recommander de poursuites criminelles contre Mme Clinton. Selon ces documents, la candidate démocrate a dit ne pas se rappeler d'avoir reçu des instructions précises du département d'État concernant les emails et n'avoir pas requis une permission spéciale pour utiliser un serveur privé pour ses communications, des aveux qui ne manqueront pas de relancer cette controverse dont l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton éprouve tant de mal à se défaire.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Georges Léonard Sagnot pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.